Voilà, donc content de vous retrouver. Nous aussi, dans notre assemblée, on a eu un temps de confinement, mais Dieu n'a jamais été confiné. Dieu a toujours été en présentiel avec nous, dans vos demeures, à vos côtés, dans vos foyers, dans vos familles, dans votre chambre si vous êtes seul. Mais Dieu était toujours là. Et Dieu continuait d'agir, de toucher les cœurs. Et c'est vrai que nous avons vécu un temps particulier, et dans ce temps particulier, je me suis un peu posé cette question, c'est quoi un culte? Parce que nous avons été privés de culte dans la façon dont nous le vivions habituellement, et c'était l'occasion de revenir sur qu'est-ce qu'un culte. Alors je me souviens de mes années d'école biblique où on avait regardé dans le Nouveau Testament toutes les mentions du mot culte, les trois mots grecs qui sont cités pour parler de culte, et voir un peu toutes les composantes qu'il y a à l'intérieur d'un culte. Et il y avait tellement de composantes qu'on disait de toute façon, une église est obligée à un moment donné de faire un choix parmi toutes ces composantes-là. Mais si moi, je vous demande, qu'est-ce qu'un culte? À quoi est-ce que vous allez penser en premier? Rassemblement, adoration. Il y a quelqu'un qui vous dit bonjour, là. Vous pouvez lui répondre quand même. Donc il s'appelle Ebiz. C'est un drôle de nom, je suis d'accord, c'est bizarre. Bonjour Ebiz. On voit tout de suite qu'il n'est pas d'ici, puisque Ebiz, ce n'est pas un nom d'ici, je ne sais même pas si c'est terrestre ce nom-là, ça doit être bizarre. Et puis il est marqué, si vous me voyez, dites-le au prédicateur. Vous le voyez? Donc en fait, chaque fois qu'il réapparaîtra, il faudra peut-être me le signaler, c'est qu'il veut intervenir. D'accord? Donc les enfants, je compte sur vous. Les enfants, c'est de 0 à 132 ans. D'accord? Donc dès que vous voyez Ebiz, vous me le signalez pour que moi, je prête attention un peu à ce qu'il veut dire, parce que ça se trouve, il a des choses intéressantes à dire. Donc pour vous, un culte, c'est l'adoration. Un service, ouais. Et vous êtes super spirituel, hein. La communion, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, Ebiz, là? Je ne sais pas comment il fait pour tenir comme ça, franchement. Mais moi, j'y arrive pas, hein. Je sais pas. C'est bizarre, hein. Bon, on va peut-être passer à autre chose, Ebiz, parce que c'est bizarre, ton truc. Donc, première chose qui m'est venue, c'est un film culte. C'est quoi un film culte? C'est un film qu'on aime. En général, pas une personne l'aime, mais plusieurs personnes l'aiment. Voilà, par exemple. Super, hein, lors d'un culte, de parler de ça. Un film culte, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Et nous appelons nos services religieux des cultes. Et ma question, c'était, est-ce qu'ils marquent l'histoire de l'Église? Est-ce qu'ils marquent l'histoire du monde comme un film culte marquerait l'histoire du cinéma? Et souvent, dans les livres d'histoire, on ne parle pas beaucoup des Églises. On aborde les thèmes des religions, un chapitre au collège. Mais après, dans tout le reste de l'histoire, on ne parle pas beaucoup de ce qui s'est passé dans l'Église. Et pourtant, c'était la priorité du cœur de Dieu, l'Église. Donc quand on parle de culte, oui, pour revenir un peu de façon plus spirituelle, mais quoique nous l'étions quand même en parlant de culte qui marque l'histoire, on peut passer à la louange, l'adoration, la prière, les réunions, la scène, le dimanche, les messages, les annonces. Ah oui, il faut penser à Dieu aussi quand même. Ouais. Fait partie du culte, quand même. Ouais. Et tout ça, en fait, ce n'est qu'un reflet de la vie d'Église. Ah, ben voilà pourquoi Ebiz arrivait à tenir comme ça, c'est qu'il s'appuyait sur la vie d'Église aussi. Parce que sans vie d'Église, on peut vite tomber. Je n'ai pas retenu le nom de l'enfant, excusez-moi. Marius. Marius, quand il est né, on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'il doit être intégré dans une famille ou pas? Vous n'êtes jamais posé la question, en fait. C'était tout à fait logique qu'il soit dans la famille. Parce que c'est bon pour lui d'être dans cette famille et de recevoir nourriture, de pouvoir grandir. Et l'Église, la vie d'Église, c'est la même chose. Lorsque nous naissons de nouveau, il est tout à fait logique, normal, que comme tout nouveau-né, nous soyons intégrés à une famille. Et cette famille, c'est l'Église, c'est la vie d'Église. Et c'est un appui spirituel. Alors bien sûr, Dieu est notre appui et tout cela, mais nous avons besoin de deux pieds. Le premier pied, Dieu est mon appui. Et le deuxième pied, j'ai une vie d'Église. Et le culte est un reflet de cette vie d'Église. J'insiste, c'est un reflet. Ce n'est pas la vie d'Église. Parce qu'on pourrait croire, je viens le dimanche, j'ai eu mon culte, j'ai eu ma vie d'Église, et puis voilà. Et le reste de la semaine, j'ai eu ma dose le dimanche. Mais le culte le dimanche n'est qu'un reflet, en fait, de ce que vit une église au quotidien. Alors, si on vous pose la question, qu'est-ce qui vous a manqué le plus durant le confinement? Je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord pour dire que c'est la communion fraternelle. Nous avons eu des cultes avec des enseignements sur Internet. Nous avons eu des réunions de prière via Teams, via aussi les moyens technologiques des réseaux sociaux, etc. Mais ce qui a manqué le plus, c'est la communion fraternelle dans le sens de contact, puisque c'est là-dessus que portait justement la restriction. Et en fait, un culte, c'est un temps de contact. Donc, on va poursuivre. J'entends quelque chose, non? Ah oui, oui. Ah oui, il s'appelle comment en fait? Ebiz. Oui, Ebiz, c'est un drôle de nom, mais en fait, Ebiz, c'est un code. C'est le code de Hébreux 12. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Waouh, je vais le répéter. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, c'est-à-dire un royaume qui ne va pas passer, un royaume qui va perdurer, un royaume qui va demeurer, un royaume que rien ne va pouvoir mettre en bas, un royaume qui va rester dans sa puissance, toujours au sommet. Il n'est pas dit que nous allons recevoir. Nous le recevons. C'est déjà du présent. Nous sommes dans ce royaume. On va y revenir. Puisque nous recevrons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect, avec piété. C'est tout un programme. Et plutôt que de reprendre tous les éléments de l'école biblique, je me suis dit, mais au milieu de tout cela, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Parce qu'en sortant, vous pouvez très bien dire, ah, ce culte était super. J'ai beaucoup aimé la prédication. Sous-entendre, comprendre, la prédication allait dans le sens de ce que je pensais, donc c'était bien. Ce culte était super, la louange c'était vraiment méga top. Et c'est vrai, j'ai beaucoup apprécié la louange. Mais on peut sous-entendre, ça correspondait à mon style musical. Et puis les chants, c'est vraiment ce qui parle à mon cœur en ce moment. Le culte était vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié les annonces. C'était chouette comme Albert les a faites. Ça me fait penser, une fois, on était dans un culte, les annonces, c'était très, très spécial. Et ouais, on a pu se rendre compte de la profondeur de ce qui se passe dans l'église en semaine à travers ces annonces. Et il a pensé à tout le monde. Et c'était génial. intérêt à faire des annonces, c'est génial. Hein, bon. Et puis, on peut traduire par « j'ai été concerné par les annonces », parce que d'habitude, les annonces, ça ne m'intéresse pas trop. Quoi. C'est des activités, de toute façon, c'est les activités qu'il y a dans l'église, et puis voilà. Quoi. Mais là, je me suis senti concerné. Et en fait, dans ces trois remarques-là, c'est bien, hein, vous avez le droit de les faire, hein, j'exagère un peu le trait exprès. Mais dans ces trois remarques-là, on est centré sur nous-mêmes. Le culte a été agréable pour moi. J'étais bien assis, j'ai eu de bons contacts avec mes frères et sœurs, c'était un bon moment sympa, etc. C'est agréable pour moi. Mais là, dans Hébreux 12, ce que Hébise souligne, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux aussi, comme on ne sait pas qui c'est, ça peut être Hébise, hein. Ce qu'il souligne, c'est que ça doit être agréable pour Dieu. Et ce que nous devons d'abord rechercher, c'est un culte qui soit agréable pour Dieu. Amen. Alors, on va avoir un petit peu plus en avant Hébreux 12, si vous le permettez. Tout d'abord, nous l'avons déjà abordé, nous avons reçu, et c'est déjà présent, un royaume inébranlable, un royaume qui ne peut pas être détruit, qui va perdurer pour l'éternité. Nous sommes déjà dans ce royaume. Ce n'est pas du futur. Ce n'est pas une promesse. Un jour, quand vous serez décédé, vous entrerez alors dans la vie éternelle et dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et les apôtres ont dit, le royaume de Dieu, ben, il est là. Il est là, pas forcément de façon visible. C'est comme s'il y avait deux mondes parallèles. Le monde politique, le monde que nous voyons, et le royaume de Dieu. Et Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il dit cela à quelqu'un qui est quand même en autorité sur les royaumes de la terre. Mais ce royaume est déjà présent. Et nos cultes sont censés refléter le royaume de Dieu, être une manifestation du royaume de Dieu. Alors déjà, dans Jean 8, il nous est dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village et il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est dans Luc 8, mais on a plein de références dans Jean, dans Matthieu, dans Marc. À plusieurs reprises, il nous a dit, Jésus guérissait les malades, Jésus délivrait des personnes, et Jésus prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nos cultes, s'ils reflètent le royaume de Dieu, c'est qu'il y ait prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors vous êtes sans doute pas comme moi, mais moi souvent je vois les trucs qui vont pas. Et on a tendance à souligner les choses qui vont pas. Vous êtes pas comme moi. Hein. C'est bien, vous pouvez vous cacher derrière les masques, mais vous avez beau avoir des masques, nous sommes à visage découvert devant Dieu. Hein. Il n'est pas arrêté par un masque pour voir nos cœurs. Et Dieu pourrait aussi s'arrêter aux choses qui ne vont pas dans nos vies, mais il ne le fait pas. Jésus n'annonçait pas la mauvaise nouvelle de tout ce qui n'allait pas. Alors certains ont dit, oui, mais Jésus était dans un contexte particulier où les gens savaient très bien ce qui n'allait pas. Ils étaient au courant de la chute, du péché, et tout cela, puisqu'ils connaissaient l'Ancien Testament. Oui. Mais vous ne croyez pas que nous savons très bien ce qui ne va pas dans nos sociétés ou dans nos vies. Dieu ne vient pas pointer du doigt ce qui ne va pas. S'il pointe un doigt, c'est pour effacer ce qui ne va pas, pas pour accuser. Parce que Dieu dit, moi je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Et il n'est pas question que pour avoir une bonne nouvelle, il faut une mauvaise avant. Nous avons besoin de cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est pour ici et maintenant. Nous pouvons déjà vivre quelque chose du royaume de Dieu. Je l'avais déjà cité la dernière fois où j'étais venu. Le royaume de Dieu, c'est dans Romains 14, verset 17, ne consiste pas dans le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Il y a de la joie? Ouais. Ouais. Oui. Il y a de la joie. La justice, c'est que, justement, c'est cette bonne nouvelle. C'est que cette justice, elle n'est pas liée à mon mérite. Elle n'est pas liée à mes qualités. Elle est liée simplement à l'œuvre de Jésus sur la croix. Simplement, c'est énorme. Hein. Mais je n'ai rien d'autre à revendiquer devant Dieu que ce que Dieu lui-même a accompli à la croix. Et c'est cela qui me justifie. J'anticipe un petit peu, mais je n'ai pas besoin d'être parfait pour assister à un culte. Sinon, Albert, il ne m'aurait jamais invité. Surtout pas. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous approcher de Dieu, parce que votre perfection, c'est Jésus. Et Jésus est tout proche de Dieu. Il est Dieu. Et Jésus vous accueille tel que vous êtes. C'est une bonne nouvelle, le royaume de Dieu. Nous sommes rendus justes, si bien que nous pouvons accomplir des œuvres justes. C'est formidable. Sans cette œuvre de Jésus, je ne pourrais rien faire qui soit agréable à Dieu. Parce que n'oubliez pas, c'est cela notre propos. Un culte agréable à Dieu. La paix. On a vécu des période tourmentée. Peut-être au niveau individuel, vous êtes dans une certaine souffrance, qu'elle soit physique, morale, spirituelle. Et Jésus vient apporter sa paix. Parfois, quand nous sommes dans des situations de souffrance, on a plutôt envie de dire pourquoi. Et on croit que la réponse va nous apaiser. En fait, savoir pourquoi, ça n'apaise pas forcément. Mais ce qui apaise, vraiment, c'est la présence de Dieu. Quand Marius pleure, ça lui arrive de temps en temps, rarement, mais on parle de l'exception. Quand Marius pleure, ça ne sert à rien de venir vers lui et de lui expliquer pourquoi il a des larmes qui coulent des yeux et de lui expliquer le rôle des glandes lacrymales. Ça ne sert à rien de lui expliquer pourquoi le nerf lui envoie une information de douleur et qu'elle se situe dans tel hémisphère du cerveau. Ça ne sert à rien de lui expliquer ça. Ce dont il a besoin, c'est d'une présence qui prenne soin de lui. C'est la paix. Une présence qui apporte cette paix. Et dans nos souffrances, ce ne sont souvent pas les réponses qui nous apportent la paix, mais c'est toujours la présence de Dieu qui vient prendre soin de nous. Amen. Et dans un culte, nous voulons voir cette paix être manifestée. Dans un culte, nous voulons voir le royaume de Dieu dans sa puissance. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir des gens être touchés par Dieu parce qu'ils saisissent la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous voulons voir des gens qui avaient certaines addictions être délivré de ses addictions. Que ce soit de façon instantanée ou progressive, mais qu'il y ait une délivrance. J'ai cru qu'il y avait Ébise qui me tapait du pied. C'est le royaume de Dieu manifesté dans un culte. Et quand tout à l'heure nous allons prier pour les gens qui ont des besoins, nous voulons nous attendre à Dieu qui répond avec sa gloire, avec sa richesse. Il est roi. Il n'a pas une couronne de pacotille. Il règne. Et son règne se manifeste à travers un culte. Un culte qui soit agréable à Dieu. On ne peut pas parler de royaume sans roi. Avec respect et piété. Cela me parle, en fait, de comment je suis devant Dieu. Alors, piété, c'est un vieux mot. Hein. Respect, on voit de quoi ça parle. Dans certaines Bibles, c'est noté le mot crainte, mais ce n'est pas la crainte, peur, trouille, hein, ce n'est pas ça. Non, Dieu n'est pas un Dieu effroyable, dans ce sens-là où il veut nous faire peur. Non, Dieu veut nous apporter sa paix, comme nous l'avons dit. Mais il est Dieu, il est glorieux, il est grand. Et quelles que soient nos pensées sur le culte, la pensée de Dieu sera encore plus grande. C'est formidable. Dieu n'est pas limité. Et devant lui, oui, il y a ce respect. Seigneur, je ne fais pas n'importe quoi devant toi. Et nous ne voulons pas faire n'importe quoi dans un culte. Mais il y a cette piété. Alors piété, c'est un mot, ça a donné un adjectif assez rigolo, c'est pieux. Comme aller au pieu. Dans un lit pour me reposer et tout ça. Et m'endormir. Ah oui, il y a un fil. Je vois mon épouse me faire des grands yeux. Il y a un fil. En fait, ils m'ont limité. Et donc, il y a ce fait d'aller au pieu. Aller dans un endroit confortable où je peux me reposer et tout cela. Et la piété, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec le pieu. Quoique. La piété, c'est l'attitude de cœur et les actes qui en découlent du fait que vous adorez Dieu, que vous êtes respectueux envers Dieu. C'est tout ce que vous faites pour Dieu. Et bien, ça vous conduit dans un état de repos. Ça vous amène dans un lieu douillet qui s'appelle un lit, où vous pouvez reprendre des forces. Parce que finalement, lorsque nous agissons pour Dieu, nous sommes renouvelés. La Bible le dit, que celui qui se confie en Dieu se renouvelle, comme l'aigle. Il y a un renouvellement quand nous servons Dieu. Et il y a un épuisement quand nous ne le servons pas ou quand nous le servons mal. Donc, avec respect et piété. Un culte, il faudra que j'écrive plus grand, non, les prochaines fois. Vous voyez, là? Ça va? Oui, bons yeux. Hein. Un culte s'adresse d'abord à Dieu. La bénédiction que nous en recevons est pure grâce. Que ce soit la prière, la louange, l'adoration, la reconnaissance, l'intercession, tout ce que nous pouvons faire, tout vient de Dieu et retourne à Dieu. Ce que nous recevons en bénédiction vient d'en haut. Tout don parfait vient d'en haut. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Ça marche? Oui? Oui, il y a Ibis qui veut intervenir. Est-ce que je peux expliquer ça? Ah, ouais, j'ai mis une grande phrase comme ça, je voulais balancer. En fait, tout ce que je peux donner à Dieu, c'est que je l'ai déjà reçu de la part de Dieu. Quand vous dites à Dieu, je te donne ma vie, c'est super, c'est génial. Mais si vous réfléchissez bien, si vous êtes vivant, c'est déjà une grâce de Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. C'est Dieu qui t'a désiré. Peut-être que vos parents ne vous ont pas désiré, mais il y en a un qui vous a désiré. C'est Dieu. Il y en a un qui vous a aimé au point de dire « Je désire qu'il vive et qu'il connaisse ma grâce et je vais donner ma vie pour lui. » Dieu te donne la vie et il donne sa vie pour toi. C'est tout l'œuvre de la croix. Et après, toi, tu dis « Seigneur, je t'offre ma vie comme si c'était un immense sacrifice. » Oui, c'est bien de le faire. Et il faut le faire. Mais ne nous enorgueillissons pas. Oula. C'était juste, hein? Waouh. Mais ne soyons pas vantards de l'avoir fait. Ah, j'ai donné ma vie à Dieu, tu te rends compte, moi? Moi, je suis spirituel. Moi, je suis. Et vous allez voir ce qu'est un culte. Moi, je suis saint. Oui. Écoute, ta sainteté, si tu es saint, c'est parce que Dieu te l'a déjà donné. Tu es saint par Jésus. Ça n'a rien à voir avec tes mérites. Tout est grâce. Et la vie que tu donnes à Dieu, c'est que Dieu t'a déjà donné la vie. Et si tu peux prier, c'est parce que Dieu t'a donné la capacité de prier. Et si tu peux t'approcher de Dieu, c'est parce que Dieu t'a permis de t'approcher. Et si tu peux connaître un tant soit peu quelque chose de Dieu sur la nature de Dieu, c'est que Dieu t'a fait grâce et t'a accordé de connaître cela. Tout vient de Dieu. Si tu peux louer, c'est que Dieu t'a donné cette capacité de cœur pour le louer. Voyez ? C'est pour cela que tout vient de Dieu. Et que lorsque nous faisons un culte, nous faisons quelque part rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Et si tu peux dire merci, c'est parce que Dieu a placé de la reconnaissance dans ton cœur. Ça nous appelle à l'humilité, ces choses-là. Vous êtes d'accord ? Hibis. Oui, mais pourquoi la pluie ? Ah ouais, parce que cette grande phrase, j'ai dit que c'était comme la pluie. Tout vient de Dieu, comme la pluie. Alors la pluie, c'est très simple. Hein. Vous avez de l'eau qui va s'évaporer, donc changer de nature, de l'état liquide, elle va devenir gazeuse, c'est l'évaporation. Puis elle va se condenser en petites gouttelettes dans les nuages. Ces nuages vont se déplacer, passer par le vent, et les petites gouttelettes vont s'assembler pour former de grosses gouttes qui vont redescendre en précipitation qu'on appelle pluie. Et cette pluie va infiltrer les sols et ruisseler pour aller finalement nourrir le sol d'eau, abreuver le sol d'eau, et nous apporter de l'eau potable aussi. Et de nouveau retourner aux océans et de nouveau de l'évaporation, etc., etc. Voilà la pluie. Et quand je prie, qu'est-ce qui se passe ? Quand je prie, ma prière liquide va s'évaporer et monter vers Dieu. Voyez l'idée ? Et Dieu va rassembler tous ces nuages de prière, toutes ces larmes de souffrance qui sont tombées, Dieu va les rassembler. Et tous ces cris de joie, parce que la prière, ce n'est pas que des larmes de souffrance, ça peut être aussi des cris de joie. Et ces larmes de joie, Dieu va les recueillir. Et à un moment donné, il les rassemble. Et les nuages se déplacent. À un moment donné, ça prend du poids, tout cela. Et ça retombe en précipitation, ça retombe en bénédiction. C'est pour ça que la prière est suivie de son effet. Mais vous noterez, ce n'est pas au moment où il y a l'évaporation qui va se mettre à pleuvoir tout de suite, pas forcément. Et ce n'est pas à l'endroit où il y a eu l'évaporation, le nuage se déplace, que ça va être l'endroit où il y aura la réponse, la bénédiction. Donc lorsque je prie, oui, il y aura une bénédiction. Oui, il y aura une réponse de Dieu. Oui, l'eau va tomber. Mais pas forcément ici, et pas forcément maintenant. Mais ce cheminement, le fait d'avoir prié, oui, de toute façon, Dieu va faire tomber sa pluie aussi bien sur les bons et sur les méchants, donc si je ne prie pas, j'aurai quand même de la pluie. Mais je crois que c'est de la pluie qui est due à la prière d'autres. Et si je peux être ici devant vous, à essayer de prêcher l'évangile, c'est parce que d'autres ont prié pour moi quand je ne connaissais pas Dieu. Et cela aussi, c'est une vie d'église. Et ce que vous priez pour quelqu'un en ce moment qui ne connaît pas Dieu, un jour, quelque part, cela retombera en bénédiction sur lui. Un jour, quelque part, Dieu répond toujours. Pas forcément de la façon dont on l'entend, mais Dieu répond. Alors on va avancer, parce que c'est bien beau les histoires de pluie et tout ça, hein, qu'on n'est pas en cours de SVT. Oui, Ibiz, il comprend mieux pourquoi il doit prier en remerciant. Ça va aussi pour vous, vous avez compris comme lui ? Lorsque je remercie, je fais monter ma reconnaissance envers Dieu et ça retombe en bénédiction. Cela crée un cycle. En effet, parfois, il y a la bénédiction de Dieu qui tombe. Nous savons que c'est une bénédiction, mais nous avons du mal de l'apprécier. Nous connaissons que Dieu nous pardonne. Mais quand nous devons à notre tour exercer ce pardon, selon les situations, on peut se dire « Waouh !» Moi, c'est juste quelque chose à ma petite dimension humaine. Et Dieu, lui, il a fait ce pardon-là à une échelle immense. Ah oui, je comprends mieux ce que ça a coûté à Dieu. Et lorsque je suis en train d'être dans la reconnaissance, ou dans la prière, ou dans l'intercession, je suis en train de comprendre mieux combien cette pluie qui descend est précieuse. Et je vais donc mieux l'apprécier. Je vais encore mieux apprécier le pardon de Dieu à mon égard lorsque je devrais à mon tour pardonner quelqu'un et que je trouve ça difficile. Vous n'êtes pas d'accord ? Si, ça va ? Vous me suivez encore ? C'est bon ? Donc, tout cela, c'est pour s'attacher à la grâce de Dieu. On va passer très vite. Attachons-nous à la grâce de Dieu. Attachez, hein ? C'est pas juste je pose la grâce dans un coin, puis après je vis comme je veux. Non, je reste intimement lié à la grâce de Dieu. Parce que si je suis attaché à la grâce de Dieu, je vais être attaché à Dieu. Et tout est grâce. Et il ne faut pas l'oublier. Même nos cultes sont une grâce. Pourquoi ? Parce que lorsque je suis attaché à la grâce de Dieu, je vais pouvoir rencontrer Dieu. Et nous allons pouvoir nous rencontrer les uns les autres. Dans Jean 17, il est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Formidable, hein ? Dieu nous aime comme il a aimé Jésus, c'est Jésus qui parle. Et Jésus va dire aux disciples, je veux que vous soyez un. Mais il va dire, Père, donne-leur la gloire. Donne-leur la gloire afin qu'ils soient un. Des fois, nous, on a inversé les choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais peut-être pas ici. Mais des fois, j'entends, il faut qu'on soit un et on verra la gloire de Dieu. Soyons un pour voir la gloire. Or, Jésus, lui, dit l'inverse. Jésus dit, donne-leur la gloire pour qu'ils soient un. C'est la gloire de Dieu qui nous unit. On peut avoir des pensées complètement différentes. On peut avoir des idées différentes. On peut avoir des visions différentes. Mais si nous sommes axés sur notre propre gloire, la gloire humaine, on va avoir tendance à défendre notre vision, notre pensée. Mais un culte qui est agréable à Dieu, c'est lorsque c'est Dieu qui est au centre. Et nous cherchons la gloire de Dieu. Et qu'importe si nous sommes différents, et même tant mieux. Parce qu'un assemblage est forcément composé de pièces différentes. Nous sommes unis par la gloire de Dieu. Et là où il y a des divisions, j'ai remarqué, c'est souvent que au moins une des personnes ne cherche plus la gloire de Dieu, mais est centrée sur sa vision à lui, sur son projet à lui, sur sa propre carrière, sur sa propre gloire. Et ça crée du trouble. Retournons à l'essentiel. C'est Dieu qui nous unit. C'est Dieu qui nous unit. Il y a de nouveau Ébise. Alors je vous ai mis l'uniformité, n'est pas la gloire, mais la gloire apporte l'unité de l'ensemble. Et un assemblage est fait d'éléments différents. Mais Ébise, qu'est-ce qu'il y a ? Ébise signale une rencontre pas juste une réunion. Ouais, parce qu'une réunion, c'est quoi? C'est des pièces de puzzle mises dans une même boîte. On a réuni les pièces de puzzle dans une même boîte. Or, nous ne sommes pas en boîte, nous sommes dans un culte. Et pour que le puzzle soit complet, il ne suffit pas de mettre les pièces de puzzle en tas dans une réunion. On a réuni les pièces. Non, pour que le puzzle soit complet, il faut assembler les pièces les unes aux autres. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Bon, un puzzle de deux pièces, ça va. Mais un puzzle de 9999 pièces, ça devient intéressant. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Ça demande d'organiser un petit peu les choses. Ça demande de s'y consacrer. Et rencontrer quelqu'un va vous demander du temps, va vous demander de la patience, va vous demander de peut-être chambouler votre emploi du temps. Nous voulons vivre de véritables rencontres. Pas juste une réunion avec Dieu, mais rencontrer Dieu. Ça implique un échange personnel où je me livre aussi. Alors on arrive au bout. Tout ça pour célébrer Dieu. Amen. Alors célébrer, c'est un mot que j'aime bien. Parce qu'en fait, ça veut dire rendre célèbre. Et souvent, nous, dans nos pensées, célébrer, c'est la louange, c'est l'adoration, nous célébrons. Oui, ça en fait partie. Mais quand nous réalisons que célébrer veut dire rendre célèbre, ça veut dire que nos cultes doivent faire connaître le cœur de Dieu. Amen. Ce cœur qui annonce la bonne nouvelle du royaume. Ce cœur qui ne condamne pas, mais qui justifie. Ce cœur qui vous apporte la paix. Et nous voulons rendre Dieu célèbre autour de nous. Amen. Si vous sortez de ce culte en disant « ça vaut la peine de parler de Dieu à quelqu'un », c'est bien. Parce que ce que vous avez vécu avec Dieu, vous avez envie de le partager, de rendre Dieu célèbre, ses œuvres et sa personne. Je veux que ce soit connu de tous. Et le culte, c'est cette révélation du royaume de Dieu. C'est aussi la révélation du cœur de Dieu, de qui il est. Et nous voulons continuer de rendre Dieu célèbre. Hébreux 12, 28. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable avec piété, avec crainte. Amen. Que Dieu soit célébré encore et glorifié à travers les instants que nous allons continuer de vivre. Merci.